Alors on va voir ce qui va se passer entre 632 et 754. J'ai pris cette date parce que ça, c'est la date de la mort du prophète. Et là, c'est la date du coup d'État, très important, où il y a un changement de dynastie. C'est les Abbasides qui vont prendre le pouvoir et qui vont gouverner jusqu'en 1258, en particulier à Bagdad. D'ailleurs, c'est en 762 que va être fondée la nouvelle capitale de l'Empire, Bagdad, qui n'existait pas avant. C'était Damas. Avant. C'était d'abord Médine, puis Damas. Alors, pendant toute cette longue période, vous vous rendez compte, hein, avant, il n'y avait presque rien, mais pendant toute la période de 632 jusqu'à la fin du 8e siècle, il y avait essentiellement des savoir-faire, technologie militaire, de la médecine. Alors la médecine, il y avait une médecine populaire, et c'est le seul domaine où il y avait un aspect science exacte, c'est la médecine des riches. La médecine des riches était évidemment apprise et pratiquée par des médecins d'origine byzantine, des médecins d'origine perse, des médecins d'Alexandrie, des médecins du croissant fertile, et qui avaient effectivement, après une médecine qu'on appelle la médecine hippocratique et galénique, dans les livres. Alors comment ? Parce que dans cette région, des élites maîtrisaient le grec et maîtrisaient le syriaque. C'était les deux langues de la région du croissant fertile, où il y avait des textes, soit des textes originaux en grec, soit des textes traduits du grec au syriaque au 5e siècle, 6e siècle, parce que les gens en avaient besoin, du moins l'élite. Mais en fait, c'est la médecine populaire qui dominait. Il y avait aussi la mécanique utilitaire, qui n'était pas dans les livres, c'était enseigné uniquement par transmission, hein, du savoir-faire. Il y avait l'astrologie, bien sûr, c'est vital, parce que c'est le seul instrument de prédiction de l'avenir des individus, des groupes, des pouvoirs politiques surtout. Et à partir du moment où ça intéressait les pouvoirs politiques, donc les pouvoirs politiques ont toujours transgressé les interdits. Bon, même avant l'islam, il y avait les interdits, comme vous le savez. Normalement, une religion qui se respecte, une religion monothéiste comme le christianisme et le judaïsme, interdit l'astrologie, parce que accepter l'astrologie, c'est se mettre à la place de Dieu, qui est le seul à connaître l'avenir des êtres humains. Et donc dire qu'il y a une science qui connaît l'avenir des êtres humains, ça veut dire qu'à un moment donné, on remplace la volonté de Dieu. Donc là, c'est un interdit. Mais cet interdit a toujours été transgressé. Et en islam, ils ne feront pas mieux. Les musulmans, en majorité, vont transgresser cet interdit. Pourquoi ? Mais parce que, comme dans toutes les civilisations, malgré tous les discours que vous entendez, nécessité fait loi. Ce n'est pas loi religieuse fait loi. Ce n'est pas charia fait loi. Charia, en arabe, c'est la loi. Hein. Ce n'est pas la loi qui fait la loi. C'est la nécessité. Et dans ce sens, les êtres humains se ressemblent. Même si certains ont des turbans et d'autres n'en ont pas. Voilà. Mais ça, c'est l'histoire qui l'enseigne. Et l'histoire n'est pas enseignée, n'est pas bien enseignée. En particulier dans ces pays musulmans aujourd'hui. Je reviens d'Alger. Hier, j'étais à Alger. Jusqu'à midi, je devais y être jusqu'à midi 10, mais l'avion avait du retard. Mais ça, ce sont d'autres problèmes. Alors, et il y a la géométrie de l'arpentage. Là, vous allez croire que peut-être il y a de la science. Non, en fait, c'est des savoir-faire, des techniciens qui savent mesurer les terres, qui savent surtout associer des surfaces à une imposition donnée parce qu'il fallait payer les impôts. Donc tous ces éléments-là, on peut les considérer comme étant des savoir-faire qui n'étaient pas hérités directement, sauf un peu de médecine et un peu d'astrologie, d'un savoir qui était dans les livres, mais qui était un savoir parfois secret d'ailleurs. Celui-là, une partie était secrète. Ici, une partie était secrète, c'est clair. Bien. Mais c'était transmis de maître à élève, en fait beaucoup plus de maître à compagnon dans les corporations. Alors, d'où vient ce savoir-faire ? Bon, on peut penser que ça vient, après tout, des résultats du savoir des vieilles civilisations, comme la civilisation mésopotamienne. Là, je vous montre une belle tablette cunéiforme qui contient de la science très dure. Hein. Ça, c'est de la géométrie avec des démonstrations, du moins un début de démonstration. Alors, on pense qu'une partie de ce savoir-faire, les acteurs du moment ne le savaient pas, hein, mais une partie de ce savoir-faire, en fait, c'est ce qui restait après le déclin des vieilles civilisations, comme la civilisation mésopotamienne, égyptienne et grecque, et il reste uniquement des recettes. Et souvent, dans l'histoire de l'humanité, on voit que quand une civilisation se développe, elle écrit des ouvrages, puis ensuite, elle décline. Ensuite, ces ouvrages sont de moins en moins enseignés. Ensuite, ils sont oubliés, mais on ne garde que certaines recettes de ces ouvrages qui sont transmises par nécessité pour résoudre les problèmes de la vie de tous les jours. On ne connaît même plus les auteurs de ces recettes, même pas l'histoire de ces recettes, de leur constitution. Et donc, il reste un savoir-faire. Donc le savoir-faire n'est pas toujours produit uniquement par du savoir-faire. Le savoir-faire est souvent aussi produit par un savoir savant qui a été oublié. Et donc il ne reste que le squelette. Mais ce squelette est suffisant dans une phase de déclin pour survivre, grosso modo. Et donc on peut penser que certaines techniques de calcul, d'arpentage, ben, c'est les survivances d'un savoir puissant, dont on connaît maintenant les chapitres intéressants, de l'histoire mésopotamienne, qui a eu des civilisations prospères 2000 ans avant Jésus-Christ. Ces tablettes-là sont de 2000 ans avant Jésus-Christ. Bien. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Bon, là j'ai parlé du savoir-faire, excusez-moi, j'ai parlé du savoir-faire venant peut-être des Mésopotamiens, mais on peut dire la même chose, peut-être qu'il y a un savoir-faire qui était venu d'Égypte, qui a circulé, et personne ne sait d'où ça vient. La même chose pour le Maghreb. Il y a un savoir-faire, évidemment, que l'ethnoscience étudie aujourd'hui. Ce sont des populations qui ont inventé certaines manipulations, certains procédés. Même chose pour l'Espagne musulmane. Bon, quoique là, certains savoir-faire étaient écrits en latin, on va les retrouver plus tard. Bien. Mais toujours est-il que la règle est à peu près générale.